Il y avait aussi du Paris des années 20-30. Là, on est vraiment dans le Paris de l'après-guerre, puisque la grande mosquée a été inaugurée en 1926. Mais ce lieu était aussi pas simplement un lieu de prière. La grande mosquée de Paris était véritablement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'emblème d'un Orient installé dans la ville. C'est-à-dire que pour l'époque, d'ailleurs, c'est assez surprenant, c'est qu'il y a eu très peu d'opposition à l'époque, malgré ce qu'on peut imaginer. Quand on voit aujourd'hui les difficultés de sa municipalité pour construire des mosquées, il faut quand même bien expliquer, c'est qu'il y a le lendemain de la Première Guerre mondiale, en gros, pour simplifier, la France a été sauvée par son empire, et c'est une manière de rendre hommage à Paris, la grande mosquée, d'une certaine manière, le lieu que les autorités municipales comme nationales présentent comme le lieu qui rend hommage à ces soldats venus se défendre pour la France. Mais en même temps, ce n'était pas qu'un lieu de prière, je le dis bien, c'était aussi un lieu où vous aviez toutes les fêtes religieuses, les calendriers et autres, se passaient ici, et en même temps aussi un lieu, ben, tout bêtement, où on venait prendre le thé, où on mangeait à l'oriental, et où quelque part, on avait ce petit coin d'Orient au cœur de Paris.
Pour la première fois, il y a cette visibilité du Paris Exactement. Arabe, de l'islam en France.
Exactement. Alors là, on a une visibilité qui est forte, d'abord parce qu'elle est au cœur de la ville. Elle est claire, le minaret dépasse largement les autres bâtiments autour. D'ailleurs, le Grand Muslim, au début des années 20, à partir de 26, le matin, on verra, il y a une très belle photo, on le voit appeler à la prière au petit matin au-dessus de Paris.
Ce qui devait faire bizarre pour les ménagères des années 30.
Quoi. En même temps, je pense que ça correspondait à une France qui était seulement plus tolérante à ce moment-là, au début des années 20, parce qu'après on va parler des années 30, parce que ça correspondait aussi à une touche d'exotisme au cœur de la capitale qui était parfaitement dans l'air du temps. C'est-à-dire c'était Pépé le Moko au cinéma, c'était la Bandera, c'était Troyes de Saint-Cyr, c'était cet esprit d'une plus grande France. C'est-à-dire qu'on sortait de l'expo des Arts Déco, on avait connu les grandes expos de Marseille de 22, on était en train de préparer le centenaire de l'Algérie de 1930 et l'exposition de 31. C'était l'esprit du temps. Je veux dire, quelque part, je pense que les débats ont été moins virulents à l'époque pour la Grande Mosquée qu'aujourd'hui dans beaucoup de municipalités qui n'arrivent toujours pas à la construire. Je prends l'exemple de Marseille, par exemple, les débats que ça fait à Marseille. Ce qui montre bien que la notion de tolérance et d'acceptation de l'autre est souvent aussi issue d'un processus qui est complètement lié au contexte du regard et à l'évolution historique. En même temps, il ne faut pas se voiler la face. La Grande Mosquée, qui est confié à Skador Ben Gabrit, qui a déjà été en gros l'émissaire français auprès des musulmans pendant la Première Guerre mondiale, qui va prendre en charge ce lieu. Donc c'est vraiment un bâtiment que l'on peut qualifier de républicain, dans le sens financé par la République, et par les impôts français, même si ça passe par le gouvernement général de l'Algérie de l'époque.
Alors pourquoi on a voulu se construire cette mosquée sous initiative publique?
Alors, je veux dire qu'il y a une première décision qui est de l'ordre, on va dire celle-là, de la propagande classique de la République, de se présenter, parce que c'est le contexte de 14-18, comme la France, comme une grande nation musulmane. Tout simplement parce qu'on veut répondre à cette crainte de voir, en gros, entre guillemets, nos sujets musulmans se retourner contre nous, ou d'être beaucoup plus fascinés par l'Italie ou par l'Allemagne, qui ont toujours eu une propagande très active sur le monde arabe. Donc, rendre hommage à l'islam, c'est d'une certaine manière donner le sentiment et le montrer d'une manière très explicite que l'on est les protecteurs, nous aussi, de l'islam en France. Ça, c'est la version, on va dire, light de la chose. Puis il y a l'autre versant du décor. À partir des années 24-25, très clairement, d'abord dans la presse, une presse plutôt très populaire, très à droite, puis progressivement dans la littérature, va émerger un discours anti-maghrébin dans Paris. Il va même y avoir un spécialiste en général des anti-arabes à la mairie de Paris qui s'appelait Godin à l'époque. Et cet homme, avec son fils, va mettre en place une sorte de structure municipale de contrôle des maghrébins dans la ville qui va parfaitement être en phase avec ce que le ministère de l'Intérieur va mettre en place via le préfet Chiap qui va créer sa brigade nord-africaine.
نتفكر الايام يا حصراه يذكروا ام الزنك طاروا مثل الطيور سافروا راحوا البر الخالي
كيفاش راح كيفاش تبدل راح ذاك الزمان غادر يا نومان
وانا مازال في بالي خطرات يبان لي كل منام خطرات نشوفه قبالي خطرات يبان لي كل منام وخطرات نشوفه قبالي العوام دبل غصني ودبال جناني كتر عليا التخمام نحكي لك من قلبي دخلاني
Voilà, demain, la suite, le Paris arabe, un reportage de Guy Vanctil, le Paris arabe. Deux siècles de présence des Orientaux et des Maghrébins, coécrit avec Éric Dérault, Driss Eliazami, Pierre Fournier, Gilles Manseron, a été publié par La Découverte, les éditions de La Découverte, en octobre 2000.